418-971-101 sur la route, vous êtes nos yeux, nos oreilles. Merci de nous texter s'il se passe quelque chose, si c'est possible de le faire, si c'est possible de texter, bien entendu. Tom?
Oui, il y avait un accident qu'on vous mentionnait sur Félix Leclerc en direction ouest à la hauteur du boulevard de Lormière, la voie de centre et de droite qui était bloquée. Il y avait une fermeture complète finalement dans ce secteur-là. C'était un accident. Les services d'urgence qui sont toujours sur place, mais on vient de réouvrir dans les dernières minutes. On parlait par texto d'un véhicule qui était carrément à l'envers, là, directement sur son toit. Donc, ça va être à surveiller quand ça va se terminer. Puis sinon, Henri IV, direction sud à la hauteur de l'autoroute Charest, la voie de droite partiellement entravée en raison d'une panne la SQ qui est sur place.
Midi 57, on va rejoindre l'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international. Salut Louis!
Hey, bonjour Québec! Hey. Toujours un plaisir de m'adresser à ma ville natale qui va voir arriver l'international à Québec au cours du week-end.
Ben oui, puis t'es en direct de Winnipeg. Tantôt, on parlait d'un sondage de Royal Lepage concernant les gens qui vivent dans les grands centres, plus de la moitié, mm-hmm. dont les gens de Montréal, 54% des gens de Montréal qui disent « Ben moi, j'aimerais ça aller m'établir ailleurs parce que le coût de la vie est épouvantable ici. On aimerait bien aller faire un tour, même à Québec. Je pense que c'est 29% des gens qui veulent quitter Montréal qui aimeraient venir faire un tour à Québec. À quoi ça ressemble à Winnipeg? Est-ce que c'est cher hein, au niveau du coût de la vie? »
Bien, tu as beaucoup d'occasions. C'est moins cher parce que tout de suite, au niveau des taxes à la consommation, c'est moins élevé que dans la province de Québec. Par contre, avec un gouvernement néo-démocrate qui est très diversifié, qui voit vers les services publics étendus, on a vu que le premier ministre Web Kanyou a reçu 900 millions de dollars en paiement de péréquation, mais il aimerait que ça soit plus stable comme montant et que ça soit plus élevé. Sauf que ce matin, dans ma chronique, j'ai dit que le premier ministre devrait peut-être avoir des cours de droit constitutionnel parce que pour aller jouer dans les paiements de péréquation, il faudrait rouvrir la Constitution. Puis tu rouvres pas la Constitution canadienne pour un élément, tu la rouvres pour au complet. Puis là, ben, le Québec aimerait bien ça, que ça soit ouvert pour aller jouer dans ses tripes d'indépendance. Alors, tout ça, pour revenir à ta question, ça coûte cher présentement au Manitoba, tout dépendant de ce que tu prends, mais tu as des bonnes occasions sur les maisons. Pourquoi? Parce que les gens tentent à quitter le grand centre de la ville de Winnipeg pour aller vers les municipalités plus au sud, c'est-à-dire Sainte-Agathe, Napierville, Sainte-Anne, Saint-Pierre-Joly, ces places-là, où tu es à peu près à 20 minutes, 30 minutes de Winnipeg. Donc, il y a beaucoup de gens, de professionnels qui vont s'établir. L'achat des terrains, écoute, tu peux avoir un terrain de 700 pieds carrés facilement le long de la rivière Rouge. Et pas cher, tu peux te monter une propriété pour même pas un demi-million de dollars avec un terrain de la sorte, avec tous les services.
OK, wow, OK. C'est intéressant, ça?
Oui.
On parle dans ta chronique de l'État palestinien. On dit qu'Israël n'a plus le lustre de l'époque de la guerre oui. froide. Donc, pour ce qui est de la reconnaissance de l'État palestinien, est-ce qu'on va peut-être l'avoir ou on ne l'aura pas pantoute?
Bien, écoute, ça, c'est un sujet qui est assez épineux et très large dans le même sens. Pourquoi? Parce que on va commencer par l'État israélien, cette semaine, n'a pas eu sa meilleure semaine. Je te dis qu'il n'y a pas eu des A+ dans son bulletin cette semaine parce que les deux frappes qu'il y a eu à Rafah, il faut que ça soit expliqué. On a frappé Rafah, mais on a oublié de dire qu'à Rafah, présentement, il y a une importante cache d'armes. On se sert beaucoup d'otages qui servent de boucliers humains, mais on a frappé. Est-ce qu'on a frappé? Puis je te dirais que même si Benjamin Netanyahu a dit qu'on a manqué, on a manqué notre cible, les Israéliens ne manquent pas leur cible, tu comprends? Donc, c'était peut-être pour se donner bonne presse au niveau mondial, puisque cette semaine, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège se sont joints aux 145 pays sur 193 de l'ONU qui appuient la Palestine comme État officiel. Encore là, même si tu aurais 192 pays sur 193 qui appuieraient la création de l'État palestinien, bien, il y a un pays là-dedans qui a un droit de veto, puis ça s'appelle les États-Unis. Les États-Unis étant un partenaire très, très proche des Israéliens. Est-ce que c'est là pour aider les Israéliens d'avoir les Américains comme partenaires et vice-versa? Parce que présentement, au niveau de la gouvernance internationale, les Américains, eux autres aussi, ont perdu beaucoup de lustre. On le voit de quelle façon les Chinois narguent l'île de Taïwan. Ouais. Puis pour eux, c'est pas si important que ça. Comme l'État d'Israël n'est pas important pour, je te dirais, le regroupement arabo-islamique que tu as autour d'Israël. Puis je vous explique pourquoi. Pour les Chinois, Taïwan, ça leur appartient déjà. Donc, c'est une question de temps. Pour eux, là, la Taïwan, c'est un territoire chinois. C'est réglé. Donc, quand ils vont se promener en bateau autour pour faire des exercices militaires, c'est juste pour narguer, pour dire, regarde, ça nous appartient, puis on a le droit de se promener ici. Puis, ils gardent à peu près sous la couverte un petit peu l'indépendance superficielle que la Taïwan a. Israël, c'est la même chose pour les pays arabo-islamiques. Elle n'a plus l'importance. C'est un petit pays dans le milieu de nulle part qui ne dérange pas. Le problème...
En fait, c'est la seule démocratie dans ce coin-là. Là.
Non, mais le problème, c'est qu'ils ont de la misère, ces pays arabes-là, à contenir les éléments extrémistes comme la Hamas et la Hezbollah. Puis ça, c'est leur tasse de thé. Ils doivent régler cette situation-là pour avoir une paix. Mais pour ce qui est du territoire du plateau de Golan qui appartient à Israël, ça n'a plus l'importance que ça relevait il y a 50 ans. Alors, tu comprends qu'il faut régler cette situation. Puis c'est ce qui pourrait régler la situation rapidement avec ce qui est arrivé, puis avec la pression qui se fait au niveau social. Puis là, ce qui semble déranger beaucoup, autant aux États-Unis qu'en Europe, qu'au Canada, c'est la présence de ces campements pro-palestiniens sur les campus universitaires. Il y a des victoires qui se gagnent à la cour, il y en a d'autres qui se perdent, mais il faut pas oublier que la rentrée scolaire arrive à grands pas. Au mois d'août sur les campus universitaires canadiens comme américains, on veut pas se ramasser avec ce genre de situation-là à la rentrée des classes parce que ça va nuire justement au cursus qui va être présenté à l'automne 2024. Donc, ça, là, on vient d'avoir une présence, une pression sociale qu'il va falloir contrôler rapidement au cours de l'LT. C'est pour ça que je dis que ce conflit devrait être l'un qui va se régler le plus rapidement. Donc, ça va être important que les Israéliens essaie de négocier, puis les Turcs sont très importants là-dedans, parce que le président Erdogan est l'un des vétérans dans le monde musulman, et c'est lui qui vient négocier, puis il veut négocier rapidement, justement pour demander au Hamas et au Hezbollah de se retirer, puis de remettre les corps des otages, parce que là, on parle plus d'otages, mais on parle de corps des otages israéliens, justement aux Israéliens, puis ça viendrait mettre fin au combat. Puis les Israéliens, eux autres, ce qu'ils veulent avoir comme entente, c'est que, oui, on pourrait le reconnaître, l'État palestinien, mais on ne veut plus de groupes terroristes comme le Hamas puis le Hezbollah être à la tête des partis politiques qui pourraient éventuellement prendre le pouvoir en Palestine.
Oui, parce que ça, les gens, ils font pas la différence entre les politiciens qui sont au travers du Hamas puis les guerriers du Hamas, là.
Ben non, ils font les gens, c'est parce qu'on va s'occuper de ce qui se passe chez nous en premier lieu, mais lorsqu'on commence à parler dans des histoires de bout d'îlot de cuisine, ben autour d'une bière dans un bar, puis tu commences à parler de ces sujets-là, ben il faut que tu comprennes, c'est la même chose qui est arrivée en Israël. Le parti Likoud est un parti justement d'extrémistes israéliens où tu avais des éléments très puissants du Mossad qui étaient à l'intérieur, Benjamin Netanyahou est issu de ce regroupement-là. Et Yasser Arafat, dans le temps, était peut-être le plus modéré du Hamas et du regroupement de l'OLP. Et là, ben ça a perdu. Pareil comme Maurice Duplessis dans le temps, c'est l'Union nationale, ça a parti. Puis là, ben le Parti québécois prend la relève. Donc, tu sais, c'est un peu quand un parti qui devient plus populaire auprès d'une certaine tranche de la population, ça apparaît. Maintenant, les gens n'arrêtent pas de dire que la Cour internationale de justice a un certain pouvoir, puis les juges vendredi dernier ont condamné Israël, puis ils amènent Israël au banc des accusés. Le problème avec ça, c'est que c'est seulement 124 pays qui sont membres, et dans les pays américains, t'as tous les pays d'Amérique du Sud, les États-Unis sont pas là-dedans. Puis le Canada en Amérique du Nord apparaît même pas dans le tableau. Puis quand je vois Justin Trudeau dire qu'il reconnaît l'indépendance d'un tribunal pour lequel il n'est pas membre, bien, ça démontre encore ce que je dis tout le temps. Il parle dans le vide, puis il amène les citoyens ou les auditeurs ou les téléspectateurs ou les lecteurs de journaux sur de la fausse information. Puis les journalistes qui traite de cette nouvelle-là en disant que le premier ministre canadien reconnaît l'indépendance d'une association pour laquelle il n'est pas membre, ben ça ne tient pas la route.
Exact.
Maintenant, les pays qui sont membres de ces du tribunal de justice, pour procéder à l'arrestation, exemple, de Benyamin Netanyahou, ou bien de Vladimir Poutine, faudrait que ces deux individus-là soient sur le territoire d'un pays membre de la Cour internationale de justice. Alors, penses-tu, Yannick, que Vladimir Poutine va s'en aller en Asie ou en Afrique quand le pétrole russe les nourrit à chaque jour? Penses-tu que même s'il met les pieds là, que les Africains, bien, les Asiatiques vont l'arrêter?
Mais non, ils l'arrêteront jamais, là.
Mais ça ne sera jamais arrêté, ça n'arrivera pas. Donc, c'est très superficiel, ça ne veut rien dire. On fait encore, je te dirais, on fait encore du millage sur l'arrestation, puis je te dirais, la Cour de justice, parce que ça existe depuis 2002. Puis en 2006, on a procédé au jugement de Milan Milosevic, l'ancien président de l'ex-Yougoslavie, qui est mort justement d'une crise cardiaque à quelques jours d'entendre son jugement. Puis on fait du millage là-dessus depuis ce temps-là, puis on pense qu'on est capable d'arrêter n'importe quel chef dans le monde. Mais c'est un bibelot, la Cour internationale de justice. Elle a les pouvoirs qu'on veut bien lui donner, puis c'est pas pour rien que les plus grandes autorités de gérance internationale ne sont pas membres. On pense à la Grande-Bretagne, il y a seulement l'Allemagne qui est là-dedans, les États-Unis ne sont pas là-dedans, la France n'est pas là-dedans, puis le Canada n'est pas là-dedans. Alors, on va lui donner l'importance qu'on veut, mais elle est quand même limitée dans ses actions.
En une minute, Louis, procès de Donald Trump aux États-Unis, le jury qui s'est retiré pour délibérer d'un verdict qu'on dit historique. C'est la première fois qu'un ex-président se présente en cours. C'est 34 falsifications de documents comptables.
34 chefs d'accusation.
Qui auraient été destinés à cacher un paiement de 130 000 $ à la prostituée Stormy Daniels pour éviter un scandale sexuel à la toute fin de sa campagne présidentielle de 2016. Là, les jurys se sont retirés. Moi, je pense qu'il ne sera pas déclaré coupable. C'est quoi ton point, toi?
Bien, écoute, oui, c'est historique dans le sens que ça va aller en appel, peu importe de quel côté ça va aller. Pourquoi? Parce que tout de suite, j'ai suivi là, les directives du juge Machin ce matin, et tout de suite, lorsque tu vas aller en appel d'un jugement, ça doit être sur les directives ou sur ce que le juge a dit. Le juge a dit deux choses. Pendant les plaidoiries de la défense, il a raboué l'avocat de la défense. Ça ne se fait pas pendant les plaidoiries. Puis ensuite de ça, il a dit dans les directives au jury, 3-4 points là, dont je vais... ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous entendre sur l'ensemble des points, mais vous pouvez diviser ça en 4, puis le reconnaître coupable sur un chef ou un autre. Et tu sais, il est en train de décortiquer les 34 chefs pour dire, bien, si vous le reconnaissez coupable, moi, j'ai juste besoin de savoir si vous le reconnaissez coupable ou non coupable. Mais ce qui va avantager, il y a deux affaires qui avantagent Donald Trump là-dedans, c'est que dans les membres du jury, tu as deux avocats de la défense qui siègent là-dessus, donc qui connaissent les principes de droit. Puis ensuite de ça, ce que tu as, c'est justement ce que le juge est en train de dire, ça vient pas aider à la cause. Puis Donald Trump a seulement besoin de convaincre un des 12 jurys pour reconnaître sa non-culpabilité puis pour faire averser le procès qu'on appelle un mistrial aux États-Unis. Donc, ça se pourrait que ça se termine en mistrial. Donc, s'il y a un mistrial, ça pourrait amener à un nouveau procès. Ça sera la couronne de New York de décider si on va dans ce sens-là. S'il y a une décision qui est faite justement sur les directives du juge concernant... ben C'est pas sur l'ensemble des 34 chefs d'accusation, vous pouvez le reconnaître, ça doit être sur l'ensemble ou une partie d'eux. Ben c'est pas ça qui était prévu depuis le début. Puis il faut pas oublier que le juge Machin, c'est une nomination démocrate qui se trouve derrière le banc. Donc dans l'ensemble, il est allé dire que ce n'est pas seulement une décision juridique que vous devez prendre, c'est une question également politique. Il est allé dire ça dans ses directives au jury ce matin. Et ça, c'est le bas qui blesse là-dedans. C'est sûr que ça va s'en aller en appel, peu importe la décision que les jurys vont prendre.
Okay, mais moi, je vais avec un non coupable. Toi, tu y vas avec quoi?
Ah ben moi, c'est sûr que c'est non coupable, mais de toute évidence, il n'ira pas en prison. Ça, s'il est reconnu coupable, il ne va pas en prison. Mais il n'ira pas en prison. Mais moi, c'est sûr dans cette histoire que c'est un verdict de non-culpabilité parce que c'est hors de tout doute raisonnable.
Louis Gauthier, tu viens nous voir la semaine prochaine?
Yes, sir.
Oh, yeah.
Honneur de te croiser, mon ami. Salut.
Hey, bonne journée, Québec.
Bye-bye. Salut. L'excellent Louis Gauthier, chroniqueur international avec qui on aime bien jaser.
J'ai pas eu le temps de lui poser la question, malheureusement, mais est-ce que ça peut être stratégique du juge d'avoir dit ça? Tu sais, quand il a dit là où le bas blesse, c'est que le juge a dit que c'était aussi une décision politique. Tu sais comment des fois, je me fais complotiste un peu. Là.
Il a dit aussi, j'ai regardé le questionnement qu'il y avait à la cour, j'ai regardé les suggestions du juge aussi, puis il a dit, vous devez mettre de côté vos opinions personnelles. T'sais, il est pas juste d'un bord, il était aussi de l'autre bord.
OK. Ça va être intéressant de suivre ça.
J'ai hâte de voir. 1h12, on fait une courte pause, on vient. Marceau.